Il est là, à côté de moi, Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont, qui a bien hâte de sortir les petits bâtons de golf.
Oui.
Salut!
Allô, Rock.
Ça s'en vient.
Ça s'en vient. Pas vite.
Cas, ça s'en venait pas vite à New York hier, il m'a dit quelque chose. Hier matin, il neigeait.
Ah oui?
Ouais.
Problème à New York, Rock?
Oui, pas mal de problèmes à New York. Tu veux pas aller là.
OK.
Bon, alors je suis dans une humeur exécrable à cause de cela.
Bon, on va te ramener
Tu vas me ramener?
Ah oui.
Tu penses?
Ah, facile.
Tu penses que tu vas me rendre de bonne humeur en me parlant des produits dérivés?
Oui.
Attends, je dors déjà.
Ah oui, c'est ça.
Produits dérivés de Warren Buffett qui dit que c'est, honnêtement, là, c'est des armes à destruction massive, cette affaire-là.
Oui, ils ont été la cause, notamment, en partie, de la crise financière en 2008-2009. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va en parler, on va expliquer c'est quoi, on va parler un peu de l'historique et les gens vont tout comprendre c'est quoi un produit dérivé après notre conversation.
J'espère.
Voilà.
On y va.
Produits dérivés, une des plus vieilles choses qui existent sur la Terre. Dès qu'il y a eu du commerce, il y a eu des produits dérivés. Ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait des contrats. Et en Amérique du Nord, sur les marchés, c'est arrivé notamment dans le Midwest américain, Chicago, les choses comme ça, avec les fermiers. Les fermiers qui avaient quelque chose à vendre. Donc, on va commencer par le début, c'est quoi un produit dérivé, avant d'aller dans l'histoire.
Merci.
Produit dérivé, c'est quoi? C'est un contrat ou un produit dont la valeur fluctue selon la fluctuation de quelque chose d'autre. Donc, on appelle un sous-jacent.
Bon, regarde-tu la face, là?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle dit, ma face?
Ça veut dire que tu comprends pas.
Exactement.
Ça veut dire quoi? C'est donc c'est un produit dont la valeur fluctue selon la fluctuation du prix de quelque chose d'autre.
Ben, donne-moi un exemple.
Je vais te donner un exemple. Et là, on va arriver avec l'historique dont je te parle. Un fermier produit du maïs.
Puis le maïs est en fonction du prix de l'essence.
Non.
Pétrole.
Non.
OK, je recommence.
Donc, et il décide de vendre son maïs à la fin de l'année. Mais son maïs n'est pas poussé encore. Donc, il va faire un contrat avec quelqu'un d'autre qui va dire, je te promets de te vendre mon maïs au mois d'août, par exemple, au prix qu'on décide maintenant.
OK.
Donc, il va avoir un contrat entre les deux personnes et à la fin août, le producteur de maïs est obligé de vendre son maïs au prix qui s'était déjà entendu d'avance.
Une pièce, l'épi.
Voilà.
OK. Je m'entends avec toi, je te vends. Il n'est pas poussé encore, mais j'ai l'espérance d'être capable.
Pas.
Faut que je te vende 1000 épis à 1000 pièces. À une pièce chaque, c'est 1000 pièces. OK, je m'entends avec toi, je signe un contrat.
Donc,
mois d'août arrive.
Mois d'août, il arrive. Le fermier a l'obligation de le vendre, qu'il ait produit autant de maïs qu'il aurait voulu ou non, que le maïs soit aussi bon, que le prix du maïs ait fluctué dans le temps,
ouais.
Il est obligé. La même chose peut arriver, puis il peut dire, regarde, je m'entends à te vendre le prix du maïs au prix que le maïs va être à ce moment-là.
Ouais.
Même s'il ne sait pas c'est quoi le prix du maïs. Okay. Donc, ça s'appelle un produit dérivé.
Que ce soit simplement une pièce, je m'entends pour un dollar, ou oui. Je m'entends pour dire, on verra bien. Un petit peu comme quand tu vas dans un restaurant, puis c'est marqué, mettons, homard. Puis là, il n'y a pas de prix. C'est marqué MP.
C'est ça.
Market price.
Market price. Hein? C'est jamais bon signe.
Non, je le sais. Là, j'ai vu ça en fin de semaine. Je suis dans un resto. Puis c'est ça que ça me disait. Alors, le homard était MP, market price. Je ne me suis pas informé.
Tu n'étais pas informé?
Non.
Ou c'est comme les menus qui n'ont pas de prix. D'habitude, c'est pas bon signe.
Ça dépend.
Ah oui?
Parce qu'il y a des restos où, à la table, il y a juste un menu avec des prix. Et les autres n'ont pas.
Oh.
Parce que tu es l'invité.
OK.
Puis c'est la personne qui invite qui a les prix. Ça, c'est encore mieux.
Ça, c'est bon.
Ouais. Je t'écoute, là, continue. On est rendu dans nos morts, là.
Deux types de produits dérivés. Qui a, donc, les types de produits fermes et optionnels. Ça veut dire quoi, la différence entre les deux? Donc, l'exemple que je t'ai donné du fermier, c'est ferme. Il s'engage, il n'a pas le choix.
Une pièce, l'épi.
Les produits optionnels, la grande catégorie qui est le plus facile à comprendre, c'est les options. C'est quoi une option? Il y a des options d'achat et des options de vente. En anglais, on appelle ça des puts et des calls. Donc, on fait un contrat avec une autre partie et on a l'option d'acheter ou non une action, parce que c'est souvent une option, c'est sur une action, à un prix déterminé dans le temps, à un moment déterminé dans le futur. Je vais être clair en plus clair. Oui, je sais. Mais il faut le comprendre parce que
c'est plus facile avec un tableau. Tu sais.
Okay. Oui, il faudrait un tableau.
Continue.
Donc, on se dit quoi? On dit que j'accepte d'acheter, par exemple, l'action de
Apple,
à 1000$ dans 6 mois.
Okay.
L'option va peut-être valoir 1$.
Mais je me suis entendu que c'est 1000$. Parce que je ne suis pas obligé de sortir le cash maintenant. Puis, au mois d'août, tout à coup, j'ai signé à 1000$, puis elle vaut 2000$.
Elle vaut 2000$.
Écoute.
On a fait un rendement de combien? De plusieurs.
De 100%.
De beaucoup plus que ça. Parce que si on a acheté notre option à 1$, parce que présentement, mettons, le prix est beaucoup plus bas que ça.
Okay.
On a acheté notre option à 1$. Donc, c'est tout ce qu'on a payé, 1$. Et si ça vaut 2000, mais notre 1$ vaut maintenant 1000$. Donc, la différence entre le 1000 et le 2000. Donc, on a fait plusieurs milliers de fois notre gain. Donc, à quoi ça sert une option? Pourquoi on achèterait une option à la place d'acheter Apple?
OK. C'est
pour se protéger des variations du prix. Ça veut dire que si on pense que l'action d'Apple va descendre, on va acheter des options de vente. Donc, on accepte de vendre déjà un prix déjà décidé maintenant.
Qui est plus haut que ce que je pense qu'il va finir à mois d'août.
Okay. Et c'est une façon de spéculer aussi.
Ouais.
Donc, c'est une façon de décupler notre gain en mettant peu d'argent sur la table au départ.
Donc, bonne ou mauvaise idée?
Bonne ou mauvaise idée, c'est une excellente idée. Donc, ça permet de faciliter les transactions entre les parties sur les marchés. Par contre, qu'est-ce qui peut arriver? C'est de l'exagération. Parce qu'on peut créer des produits dérivés sur des produits dérivés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que on prend notre exemple, une hypothèque. Donc, j'achète des hypothèques. Selon moi, je vais faire de l'argent parce que les gens qui ont l'hypothèque vont payer 3, 4, 5 par année. Je veux me protéger du prix, donc je vais vendre une partie du risque à une troisième partie en utilisant les produits dérivés. Cette troisième partie-là va vendre une partie du risque qui m'a acheté à une partie dérivée. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, une exposition qui pourrait être de 20 millions de dollars sur les hypothèques que j'ai achetées peut devenir plusieurs milliards de dollars. Donc, si ces 100 maisons-là, ils font défaut sur leur paiement, ils peuvent avoir un impact sur les marchés de plusieurs milliards de dollars puisqu'il y a eu des dérivés sur des dérivés. Qu'est-ce que les autorités ont fait pour contrer ça? C'est qu'ils ont obligé les institutions financières qui participaient à ce genre de marché-là d'être beaucoup plus solides financièrement. Donc, la leçon de 2008, c'est que maintenant, les banques, surtout les banques américaines, doivent avoir un capital beaucoup plus important avant d'arriver dans ce genre de contrat-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose d'un peu plus compliqué sur les marchés. Par contre, c'est utiliser des trillions de dollars sur la planète. C'est présent sur les marchés, puis il faut au moins savoir que ça existe.
Et c'est pour ça que ça prend un spécialiste, parce que là, on tombe dans le spécial.
On tombe dans le spécial. Je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui est commun, qu'on entend beaucoup parler et que les gens ne savent pas exactement c'est quoi. J'espère qu'ils comprennent un petit peu plus, parce que tu as trouvé ça un peu compliqué.
Oui, je l'ai trouvé compliqué, mais c'est correct. On est là pour apprendre.
Voilà.
Puis il ne faut pas que ça soit toujours du facile. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Est-ce que tu veux nous parler des leçons apprises de la crise pour terminer?
Les leçons apprises de la crise, puis c'est important.
2008-2009.
On peut en parler aujourd'hui parce que les marchés ne vont pas bien présentement.
Sur
les marchés. Donc, il y a eu une baisse importante des marchés américains, notamment hier. On parle entre 2 et 3 sur les marchés, notamment le S&P et le Nasdaq. L'utilisation de dérivés peut protéger en partie des portefeuilles sur une baisse. Nous, on ne le fait pas chez Rivemont. On n'utilise pas les produits dérivés. On n'est pas inscrit parce que c'est une inscription particulière auprès de l'Autorité des marchés financiers. On a décidé de ne pas le faire. Par contre, il y a des firmes qui le font. Et il y a des produits financiers qui sont disponibles sur le marché, notamment certains fonds qui utilisent les produits dérivés. Donc, si on le fait, si on achète ce type de produit-là, bien, il faut s'assurer de bien le comprendre parce que d'habitude, les risques peuvent être décuplés suite à l'utilisation de ces produits-là.
Excellent. Merci beaucoup. Prépare tes bâtons de golf, mon ami.
Oui, toi aussi.
Oui. Toi, en parlant de New York tantôt, rapidement, toi, tu es un amateur de baseball.
Oui, j'aime le baseball.
Puis, tu ne crois pas au retour des expos.
Non.
Pourquoi?
J'aimerais beaucoup qu'ils reviennent. Mais je pense que la température québécoise fait que si les expos sont éliminés fin août, puis il fait frais, il n'y aura pas grand monde au stade. Et qu'il va y avoir une certaine difficulté à vendre les loges corporatives, même si j'adorerais beaucoup qu'ils reviennent. Parce que moi, j'y allais beaucoup.
Parce que tu
j'y
prends
allais
pour...
quand j'étais jeune.
Parce que tu prends pour acquis qu'on n'aurait pas de toit.
Je prends pour acquis que si on avait un toit, ça coûterait très, très, très cher construire ça.
Ouais.
Mais je suis pas certain qu'on...
OK, attends une minute. Toi, t'es-tu un tenant à ce que le gouvernement du Québec, notamment, et le fédéral, mettent de l'argent dans un stade à Montréal?
Je sais pas.
Est-ce que tu étais d'accord à ce qu'on mette de l'argent dans Vidéotron au Québec?
Je pense pas non plus.
Ah, OK. Fait que t'es conséquent.
Je suis conséquent.
OK. Mais considérant qu'on a mis le bras dans le tordeur à Québec, puis il n'y a pas de club... S'il y a un retour, pas un éléphant blanc comme là-bas, mais s'il y a un retour moyennant une contribution pour bâtir un stade au centre-ville, première question, est-ce qu'on met de l'argent d'étatique dedans? Puis deuxième question, mets-tu un toit?
Si à Toronto, ça prend un toit.
Ben, t'as pas le choix. Si tu l'as à Toronto, puis la température est plus clémente.
Oui.
Donc? T'es d'accord avec un stade financé par l'État d'abord qu'il y a un toit? T'as-tu comment on appelle ça, ce stade-là? Le stade olympique.
Oui.
Merci beaucoup, Martin. Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.